France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. À l'époque, nous étions au début des années 70, la Chine était un pays qui évitait toutes sortes de pollution et toutes sortes de gaspillages. Mais il n'était pas question uniquement de la Chine dans l'émission Dialogue qui vient, animée par Roger Pilaudin, mais bien du gaspillage en général qui, déjà, augmentait l'injustice. La société du gaspillage est en train de mener l'humanité à sa perte, prophétisait René Dumont. Pour en finir avec la société de gaspillage, première diffusion sur France Culture le 15 mai 1973, quelques mois avant le premier choc pétrolier, donc.
Après cette brève introduction par les Pink Floyd qui nous disent « Money, get away », voici donc un dialogue aujourd'hui entre deux hommes attachés depuis longtemps à l'observation économique continue. D'une part, Alfred Sauvy, dont on connaît la longue série de ses chroniques de conjoncture sur la situation économique en France, et nombre de travaux sociologiques, parmi lesquels je rappellerai « La mythologie de notre temps » publié chez Payot, « La théorie générale de la population » deux volumes publiés aux presses universitaires de France et « Les quatre roues de la fortune » publié en 1968. D'autre part, René Dumont, ingénieur agronome et économiste, dont le récent ouvrage, publié au Seuil, est une véritable bombe, « L'utopie ou la mort ». Dans cette série de dialogues où récemment encore François Châtelet et Gilles Lapouge mettaient en évidence l'actualité de l'utopie, le thème choisi par nos deux invités aujourd'hui dit à lui seul par son agressivité « Pour en finir avec la société de gaspillage, combien les problèmes économiques qui se posent à notre planète exigent des réponses urgentes, politiques et globales ?» Alfred Sauvy.
Peut-être que nous pourrions commencer par essayer une définition du gaspillage. Le fameux milliardaire qui allume son cigare avec des billets de banque, c'est pas du gaspillage, il brûle un morceau de papier. Mais par contre, le milliardaire chilien qui exploitait très mal ses terres, très extensivement, et auquel, mon cher René Dumont, vous avez dit « vous êtes un criminel », celui-là, c'était un homme qui gaspillait parce qu'il perdait la nature, il perdait la richesse, des richesses utiles aux hommes. Étant donné que le gaspillage, c'est la perte, non pas d'argent dans le sens monétaire, mais de richesse. Est-ce que là-dessus, vous êtes bien d'accord ?
C'est bien évident, mais j'aurais préféré peut-être parler aujourd'hui de la société d'injustice plutôt que de la société de gaspillage, parce que le gaspillage est grave en ce sens qu'il aggrave les injustices. Si les humains existants étaient nourris au standard de vie américain, avec la production agricole dont je dispose, y compris la pêche, je ne pourrais pas nourrir plus d'un milliard d'hommes. Or, nous avons 3 milliards 700 millions d'hommes à nourrir. Alors cette société de gaspillage aboutit pour une grande partie de l'humanité à une sous-alimentation qui vraiment est angoissante. En 1966, je publiais « Nous allons à la famine », non pas que je désirais que nous allions à la famine, mais je craignais que si nos errements se prolongeaient, nous aggravions la famine. Eh bien cette fois-ci, je pense que vous avez lu « Le Monde » du 19 avril, c'est les plus hautes autorités de la Société des Nations, la FAO, avec Burma, qui nous dit que nous sommes en pleine famine. Nous sommes en pleine famine en Inde, qui aurait eu besoin d'acheter 6 millions de tonnes de céréales, mais qui n'a pu en acheter que 3 millions, parce que les Soviétiques ayant acheté des quantités massives de céréales, il n'en reste pas assez pour les pays en voie de développement. Nous sommes en pleine famine dans la zone qui s'étend depuis le nord du Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le nord de la Haute-Volta. J'étais encore à minuit en Haute-Volta. Et jusqu'au Tchad et au Niger, là, c'est une sécheresse exceptionnelle, certes, mais c'est aussi le fait que notre société globale, notre société mondiale globale, notre société d'injustice croissante ne permet pas à ces pays d'assurer leur développement. Nous leur apportons soi-disant des assistances, mais ces assistances ne leur permettent pas de se développer parce qu'on leur paye de moins en moins cher leurs denrées de première nécessité et nous donnons à nos animaux ce qu'ils pourraient manger. Quand je pense que la poudre de lait va d'abord en proportion importante aux veaux, que la farine de poisson, elle, en quasi-totalité, va aux animaux, que les sources de protéines végétales, les tourteaux alimentaires, vont aux animaux. Alors, actuellement, il y a de quoi nourrir l'humanité existante, il y a de quoi parer à cette effroyable carence de protéines. En Nigeria, d'où je reviens, les enfants de 1 à 5 ans souffrent de protéines, et après 5 ans, de carence de protéines, et après 5 ans, n'en souffrent plus. Pourquoi, me disait la doctoresse du centre de nutrition de l'université d'Ibadan? Parce que chacun d'eux a une fronde, et à partir de 5 ans, ils sont chasseurs. Ils sont chasseurs de lézards, ils sont chasseurs de rats, ils sont collecteurs d'insectes, et grâce à cela, ils se nourrissent correctement. Mais de 1 à 5 ans, après le lait maternel et avant la chasse, il y a eu dans leur cerveau des dégâts souvent irréparables. On est en train de fabriquer des dizaines de millions de sous-hommes par sous-alimentation, par suite d'une injustice fondamentale, et ce sont nos gaspillages qui provoquent ces sous-alimentations. Ce sont donc nos gaspillages qui sont absolument intolérables et inacceptables à l'échelle mondiale.
Oui, n'est-ce pas? Qu'il y ait des pénuries dans les pays que vous dites, et dans d'autres aussi, ça ne fait aucun doute. Mais la question est de savoir si c'est uniquement une question d'inégalité ou bien si c'est une question de gaspillage proprement dit. Parce que nous pourrions être extrêmement égoïstes et ne pas gaspiller, ou au contraire être plus altruiste et gâcher les choses. Alors ce sont deux aspects assez différents. Là où je vous donne tout à fait raison, c'est sur la farine de poisson, la farine de soja, etc. Toutes les protéines qui pourraient alimenter des hommes vont à l'alimentation des animaux par le jeu pur du marché. Parce que les éleveurs des animaux des pays riches peuvent payer plus cher que les pays pauvres. Seulement, vous connaissez le problème de la viande, et quel est le français, l'anglais, l'américain, etc., qui va accepter de se priver de viande pour que l'on puisse laisser un certain nombre de protéines aux autres pays? Ce n'est même pas une question de partage d'argent, là, c'est une question de partage de produits. Et pour le moment, le désir ardent qu'ont les Européens, et même les Américains du Sud, dans les pays, dans les classes les plus riches, de manger de plus en plus de viande, est un problème qui, par le jeu du marché, réduit les protéines et crée des carences, c'est incontestable. Alors, est-ce que vous voyez un moyen de résoudre ce problème-là, déjà?
Bien, c'est un problème d'inégalité. Si nous mangeons de plus en plus de viande, il y aura de moins en moins de protéines pour les gens du tiers-monde, et je ne vois pas d'autres moyens d'arriver à mieux répartir la viande que d'arriver à mieux répartir les revenus. Actuellement, les revenus sont répartis de par les richesses, et ces richesses aboutissent à ce que les uns peuvent se payer de plus en plus d'aliments. Et le gaspillage n'est pas seulement pour les aliments, c'est là qu'il est le plus grave, mais le gaspillage, vous le dites dans votre livre pour le papier, rien que la publicité d'un numéro, je cite ici Alfred Sauvy, rien que la publicité d'un numéro du New York Times du dimanche gaspille autant de papier que tous les livres scolaires du Cameroun en une année. Alors tout de même, les écoliers d'Afrique n'ont pas assez de papier, et nous gaspillons du papier pour provoquer le gaspillage, parce que la publicité est encore une forme de gaspillage invraisemblable. On pousse les gens, on pousse les dames à avoir une année les robes très longues, et elles sont, paraît-il, très élégantes, mais l'année d'après, il faut qu'elles aient les robes très courtes, et puis il faut recommencer ensuite, de façon à actionner le gaspillage de tissus. Il faut faire des voitures de plus en plus somptueuses et de plus en plus lourdes et de plus en plus puissantes et de plus en plus consommatrices de ce pétrole dont nous ne savons pas jusqu'où il va aller, ce pétrole. Hein. Et par conséquent, nous sommes en train de compromettre, premièrement, par nos gaspillages, nous sommes en train de compromettre le niveau de vie des pauvres. Et alors là, j'appelle dans mon livre les pauvres à la révolte, parce que jusqu'à présent, les appels au bon sentiment n'ont pas suffisamment réussi. Nous compromettons les pauvres et nous compromettons nos arrière-petits-enfants, les arrière-petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. En janvier 50, j'étais au Nord Cameroun avec un chef kirdi. Les kirdis, c'est les païens, ainsi les appellent les musulmans. Des sauvages. Oh, ça, totalement sauvages, ils ne sont presque pas habillés, il n'y a pas de question. Le chef de terre, à qui je posais la question « à qui appartient la terre ?», me prouvait qu'il était un sauvage en me disant « la terre appartient à nos ancêtres que nous vénérons, à la génération actuelle à qui nous donnons toute la terre qu'il faut pour cultiver, et aux arrière-petits-enfants de nos arrière-petits-enfants pour qui nous devons la garder en bon état de fertilité ». Il prouvait ainsi, évidemment, qu'il était un sauvage. Nous, nous sommes les civilisés, on fiche par terre la terre en l'espace de une ou deux générations, parce que nous, nous sommes des civilisés. Nous avons les moyens de détruire la terre.
Monsieur Sauvy ?
Je vous suis tout à fait, quand vous parlez en moraliste, et là je vous suis à 100%. Moi, je suis un terre-à-terre, et j'essaye d'être un praticien, et de trouver des moyens. Or, qu'il s'agisse des revenus ou qu'il s'agisse des produits, je vois très mal pour le moment les pays riches accepter un partage quelconque autre que ce 1% et qu'ils ne donnent même pas. Pour moi, la caractéristique du vrai socialiste, ce n'est pas celui qui accepte de partager avec plus riche que lui. Ce n'est pas très difficile. C'est celui qui accepte de partager avec plus pauvre que lui. Or, vous pouvez parler avec des gens, même extrémistes, sur bien des points, ils ont des idées très justes et très nobles. Mais dès que vous parlez des pays pauvres, vous voyez la conversation qui dévie. Vous avez déjà dû le constater vous-même, n'est-ce pas? Parce que c'est un sujet déplaisant. Alors, il faut trouver le moyen. Pour moi, je pense, vous allez me trouver là encore très concret, terre à terre, je pense qu'il vaut mieux prouver aux hommes des pays riches que c'est leur intérêt et qu'ils sont en train de détruire leur intérêt. Si on se contente de leur dire « vous êtes des méchants, vous n'êtes pas gentils, il y a des hommes qui meurent de faim, il y a des enfants qui souffrent », ils donneront à la quête, à la SCOFAM, quand on le dimanche, quand on fait une quête, puis quand ils auront donné 3 ou 4 francs, leur conscience sera tranquille. La charité a toujours soulagé la conscience du riche, bien avant de soulager la conscience du pauvre.
René Dumont.
Oui, mais moi, j'appelle les pauvres, pour la première fois, à la révolte. Je ne dis pas à telle ou telle forme de révolte, c'est à eux de la choisir. Mais William Rostov, dans les 4 étapes de la croissance économique, vers 1950, expliquait aux gens du tiers-monde que, ma foi, ils n'avaient pas à s'inquiéter. Ils n'avaient qu'à suivre la voie royale de développement de l'Europe atlantique, passer par tous les stades de la pré-révolution industrielle, de la révolution industrielle, la société de consommation de masse, l'heure serait ouverte. Tout le monde suivrait le même chemin, il suffisait simplement d'être patient. Oui, mais alors maintenant, on s'inquiète sur les ressources du globe, on s'inquiète sur la possibilité de réaliser un tel développement, et je vois ces pays du tiers-monde condamnés à la misère perpétuelle s'ils ne se révoltent pas. Alors, le choix de la forme de révolte nous importe beaucoup, parce que là encore, nous pourrions être touchés. Je ne fais pas seulement appel à la moralité. J'étais l'autre jour, c'était en février 1970, à Columbia Université, un colloque organisé pour le rapport Pearson. Et à ce colloque, je rencontre un ami américain qui appartient au State Department, les Affaires étrangères, que j'avais connu en 1945 sous l'uniforme américain dans les rues de Paris. Et je lui dis quand même, la politique du State Department ne paraît pas très intelligente. Enfin, vraiment, vous n'avez pas le brio qu'avaient les Anglais au 19e siècle. Il me dit oui, mais nous sommes en train de progresser. Cette conversation se passait en février 70, c'est intéressant. Et il dit « L'intelligence politique au State Department progresse au même rythme que la fabrication de la bombe atomique chinoise. » Et comme vous le savez, la bombe atomique chinoise se développe assez rapidement. Alors ça, c'est un argument qui sort de la moralité, supposer l'ensemble des peuples du tiers-monde unis derrière un armement atomique chinois. Alors là, ça devient quelque chose qui peut intéresser nos enfants, par exemple, qui verront en face d'eux un armement atomique chinois important.
Oui, mais le gaspillage n'est pas uniquement alimentaire. Et je pense que les formes que nous avons, même dans la partie alimentaire, sont les moins importantes. Parce qu'après tout, 3000 calories, 3200 calories, ça ne dépasse pas certaines capacités de l'organisme. Tandis que dans le reste, nous avons des excédents énormes. Et quand vous appelez les pays pauvres à la révolte, je pense avoir était dans la même voie que vous, peut-être avec des arguments un peu différents, parce que je ne crois pas qu'ils emploient les bons arguments jusqu'à présent. D'autre part, ils se divisent entre eux. Vous savez que les pays pétroliers ne sont pas du tout prêts à partager avec les autres. Ils ont, les musulmans qui ont le pétrole, les arabes, ne partagent pas avec les autres. Et ils emploient l'argument de force vis-à-vis des compagnies pétrolières de leur vendre le pétrole plus cher. Alors, moi qui suis un peu honteux d'avoir inventé il y a 22 ans l'expression « tiers-monde », je crois qu'elle ne convient plus très bien. Ce n'est pas du tout que je voudrais diviser ces pays pauvres, qu'on appelle maintenant d'ailleurs pays pauvres plus justement peut-être. Mais je crois qu'ils ne sont pas unis et qu'ils ont du mal à s'unir et qu'ils ont jusqu'à présent qu'ils n'ont pas trouvé les bons arguments. Ils n'ont fait à peu près aucune réaction contre l'armement et la guerre, alors que mon Dieu, tout de même, si 2 ou 3 milliards d'hommes avaient élevé la voix très fortement, ça aurait peut-être pu tout de même avoir un certain effet. Et maintenant, ils ne s'élèvent pas non plus contre le gaspillage des pays riches, contre cette croissance. Et je leur suggère de dire, mais enfin, si un jour nous mourrons de faim sur notre terre, nous engraisserons notre terre de nos dépouilles, comme nous l'avons fait depuis des millénaires, sans empoisonner personne. Tandis que vous venez tirer les richesses de toute la terre, vous les gaspillez à un rythme incroyable, et vous empoisonnez le monde entier de vos déchets. Par conséquent, s'il y a un dommage mondial et une menace sur le monde, elle vient bien des pays riches et pas des pays pauvres, même de ceux qui ont le malheur de se multiplier trop vite, comme vous en connaissez beaucoup.
C'est bien évident, les États-Unis, avec moins de 6% de la population mondiale, gaspillent plutôt que n'utilisent, et polluent, gaspillent 24 à 40% des principales matières premières du monde. Alors, où est-ce qu'est la menace ? La menace est dans les pays riches. Où est-ce qu'elle est ? Elle est chez les riches des pays riches. Alors, où est-ce qu'il faut arrêter ? Quand les Américains conseillent aux Amazoniens d'arrêter la croissance de leur population, moi, je cherche à démontrer que c'est eux qui doivent d'abord arrêter leur démographie, à moins qu'ils ne changent leur système de civilisation. Je pense qu'il faut peser sur les deux plateaux de la balance à la fois. Ehrlich nous montre que chaque fois qu'il y a 1000 habitants de plus en Californie, il y a 1 km² de terre qui est perdu pour l'agriculture, parce qu'on fait l'autoroute, on fait le parking, on fait le symbole de la fameuse civilisation de l'automobile particulière dont nous fêtons en ce moment les dernières décennies, parce qu'évidemment le siècle prochain, on ne pourra pas continuer avec les automobiles. Or, je reviens du Bangladesh. Au mois de janvier, j'ai passé là-bas, dans la région de Comilla, la frontière de l'Inde, la partie orientale, j'ai trouvé des districts ruraux avec 1000 habitants au kilomètre carré qui sont en train de faire des routes, qui sont en train d'acheter des autos pour les plus riches, seulement pour les riches naturellement, mais s'ils continuent comme ça, si l'auto leur prend 1 km² chaque fois qu'il y a 1000 habitants, il y a déjà 1100 habitants au kilomètre carré dans certains districts. Par conséquent, la civilisation de l'automobile particulière, qui est la civilisation du gaspillage, et ce n'est pas à l'auteur des 4 roues de la fortune que j'ai à l'apprendre, est une civilisation absolument inapplicable à l'échelon mondial. Alors, c'est là que,
c'est là que le gaspillage... Il n'est fait aucun doute que c'est de la frénésie de l'automobile que partit tout le reste, parce que ça s'enchaîne. Et tout le monde est enchaîné, tout le monde est pris là-dedans, aucun individu n'est responsable lui-même. Seulement, il y a un gaspillage encore pire que celui de la nourriture ou de l'espace, c'est celui des vies humaines. Et il y a un Roumain qui me disait il y a quelques jours, il y a une chose que je ne comprends pas chez vous, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas les cimetières tout près des routes ? Parce que comme ça, vous auriez beaucoup moins de chemin à faire et vous feriez beaucoup d'économies. Et je viens de lire dans un journal que tout le monde peut avoir entre les mains, je ne dirai pas le nom de la marque parce que ça lui ferait des clients. Elle dit 205 km à l'heure, ce n'est pas seulement couvrir 57 mètres en une seconde, c'est aussi la certitude de faire face à l'imprévisible en toute quiétude. Voilà ce qui est dit en 1973 aux hommes en ce moment. N'est-ce pas ?
À quoi vous jouez là ?
Aux autos.
Alors tu joues aux autos, qu'est-ce que tu fais ?
Ben, je fais des accidents.
Des quoi ?
Des accidents.
Vous pouvez me dire ce qui s'est passé, s'il vous plaît ?
Ah
bah, je sais pas, monsieur, vous savez, ils sont rentrés dedans, là, je crois que le monsieur est dans son tort, puisqu'il a brûlé le feu rouge, alors.
Bah, j'étais en train de discuter avec un copain, lui, il venait d'étaler, l'autre à Tolbiac. On sait pas, exactement. Rouge, non.
Vous avez vu ce qui s'est passé?
Non. J'ai vu la voiture qui s'est retournée un peu plus, on était dedans, nous, c'est tout.
Pourquoi?
Parce qu'il allait monter, il n'avait pas eu le contrôle de sa voiture. On était cuites ici, hein. Il y a eu le contrôle, le monsieur, de sa voiture, là. La camionnette, là. Pas l'autre, là-bas, parce que c'est lui qui y est rentré dedans.
Attention, en traversant, il faut faire attention, aujourd'hui, il arrive tellement d'accidents, on n'ose plus traverser, monsieur, on n'ose plus.
Au marché de Maison-Blanche, il y a environ 3 semaines, il y a une personne âgée qui a été tuée nette. Elle a voltigé en l'air, elle a été tuée nette. Elle était sur les clous, mais... Et voilà.
Voilà, après cette brève évocation sonore de la rue et de ses voitures, nous revenons au studio 105 où nous retrouvons Alfred Sauvy, interrompu pendant ces quelques instants.
Alors, il ne faut pas s'étonner si tout le reste en découle, puisque même la vie humaine qui est risquée ne suffit pas. Et l'homme est pris dans cette frénésie. Alors, vous dites que le pétrole n'en a pas pour très longtemps. Moi, je crois qu'il en a pour plus longtemps qu'on le pense, parce qu'il y a toujours des rabiots, des ressources, des choses que l'on trouve après, de sorte que ça peut durer encore plus longtemps qu'on ne croit. Enfin, moi, je ne verrai pas la fin de l'automobile, vous peut-être.
René Dumont.
Et l'automobile est aussi un facteur de clivage social. Je reviens de la Nigeria avant la Haute-Volta. Et j'ai vu le compte-rendu d'une commission d'enquête sur la révolte paysanne dans le Western Nigeria. C'est passé inaperçu parce que c'était la guerre du Biafra. Alors une petite révolte dans un autre coin du Nigeria, la presse n'avait pas la place pour en parler, n'est-ce pas ? De même que quand il y a eu le grand massacre du Bangladesh au printemps 71, on n'a pas pu parler de la révolte de Ceylan où tout de même il y a eu 15 à 24 000 jeunes qui ont été massacrés au centenaire de la Commune de Paris. Eh bien, les paysans de l'ouest de la Nigeria ont attaqué les Wabenzi. Qu'est-ce que c'est que les Wabenzi ? Vous connaissez tous la marque Mercedes-Benz. Alors, on appelle un monsieur qui a une Mercedes un Benz. Et au pluriel, Wabenzi. Alors, tous les fonctionnaires Wabenzi ont été brûlés leur Benzi dans la révolte paysanne. C'était très astucieux. Tout fonctionnaire de Nigeria qui a une Mercedes n'a pas pu l'avoir de par son traitement et le coût de la Mercedes par des moyens légaux. Par conséquent, c'est un prévaricateur et les paysans n'ont pas brûlé les propriétaires de 404 Peugeot, qui est la voiture la plus répandue, parce qu'ils estimaient que peut-être un fonctionnaire très économe pouvait se la procurer. Alors, le symbole de l'automobile qui accentue les privilèges de la minorité privilégiée, Samir Amin nous montre que dans l'Afrique de l'Ouest, on dit que les États de l'intérieur ont 100$ par tête et par an et que les États de la côte ont 200$ par tête et par an. Mais en regardant à peu près, les paysans ont à peu près la même somme, sauf une petite partie des riches planteurs. Mais dans l'intérieur, il y a 2% de minorités privilégiées qui vivent avec l'automobile. Sur la côte, il y a 7% de privilégiés qui vivent avec l'automobile. Et à mesure que cette proportion augmente, le prélèvement augmente sur la masse paysanne. La masse paysanne ne s'en sort pas et on va à une impasse.
Qu'est-ce que vous lui faites à votre voiture ?
Je transforme les ailes et les roues.
Pourquoi ?
Pour élargir les voies et puis pour tenir mieux la route.
Ouais.
Et puis ça enjolive en même temps, ça fait plus peur.
Vous dépensez beaucoup d'argent pour ?
Ah ça oui,
combien ?
Presque tout le mois.
Vous dépensez tout votre voie pour le tout
presque,
votre mois ?
Oui, presque, presque.
C'est-à-dire combien ?
Bah, par mois, il faut compter 900 francs pour la voiture.
900 francs par mois ?
Ah oui,
la voiture. Votre mois, il passe alors ?
Ah si. Ah oui, ça.
Vous pourrez pâter les gens ?
Ouais.
Les filles ?
Ouais, surtout, ouais. Ça, c'est sûr.
Dites, vous aimeriez avoir une voiture plus tard ?
Pardon ? Ah, oui.
Avoir une voiture ?
Oui.
Quelle voiture ?
Je sais pas, je voudrais bien avoir une Porsche.
Vous croyez pas que quand vous serez plus grand, il y aura trop de voitures ?
Je sais pas et je m'en moque.
Plein d'autos. Ouais, plein d'autos. Des autos de partout.
Thank you. Retour au studio 105 pour la suite du dialogue entre Alfred Sauvy et René Dumont sur le thème « Pour en finir avec la société de gaspillage ». Alfred Sauvy.
Vous savez qu'on nous accuse, enfin, on, les beaucoup de jeunes, et non sans raison, et les Chinois aussi, de tomber dans l'économisme. C'est un peu tout ce que vous venez de décrire, n'est-ce pas, l'économisme. Seulement, malheureusement, nous combinons l'économisme avec des mesures anti-économiques. Et alors, vous, que je suis content de vous avoir, vous, agronome, pour savoir ce que vous pensez de la destruction en masse qui se fait dans mon pays, des pêches et d'autres fruits, du vin, bien entendu, que l'on transforme en alcool, alors qu'il y a beaucoup de régions de France où l'on cultive du vin mauvais, et dans ces pays-là, on pourrait faire de la viande. Alors il me semble que tout cet ensemble, cette destruction des fruits, qui est vraiment vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des pays pauvres, de penser que les pays riches détruisent leurs richesses avec des produits chimiques, parce qu'il faut employer des produits coûteux et des fonctionnaires pour cela, et qu'ils détruisent également leur vin, à grands frais, bien entendu, aux frais du contribuable, et qu'ils n'ont pas de viande, alors qu'ils pourraient en faire, au moins dans certaines des régions, peut-être que vous pourriez avoir là des idées, je ne dis pas originales parce que vous avez déjà certainement eu, mais enfin originales pour moi.
René Dumont.
Ben, quand je suis rentré d'Indochine en 1933, c'était un de mes premiers contacts avec Alfred Sauvy, j'ai constaté qu'on distillait le vin de l'Hérault pour faire de l'alcool, qu'on mettait cet alcool dans les moteurs d'automobile et que les moteurs d'automobile arrivaient à attirer comme, hein, des gens comme ça. Alors j'ai calculé le nombre d'heures de travail pour produire le vin et la productivité de ce vin en tirage d'automobile. Et j'avais trouvé que la productivité n'était pas tout à fait égale à celle du pousse-pousse d'Indochine. Alors j'avais proposé que, au lieu que les viticulteurs continuent à produire de la vigne pour être distillée pour faire de l'alcool, qu'on les attelle à des pousse-pousses dans les rues de Béziers, ça aurait eu une productivité un peu supérieure. J'ai pas eu beaucoup de succès. En fait, c'était pour tâcher de faire ressortir l'absurdité de telles mesures.
Mais vous pourriez les reproposer maintenant, quand on va manquer de pétrole, vous pourriez suggérer ça, peut-être.
Dans mon livre, je parle de bateaux à voile de 20 000 tonnes, parce qu'on peut maintenant tirer des vins, quand il n'y aura plus de pétrole, naturellement, avec des ordinateurs qui leur donnent les vents et des gars qui s'amuseront à manœuvrer les voiles. Il paraît que c'est très amusant. Je pense que quand vous parliez des zones qui font du mauvais vin et qui pourraient faire de la viande, j'étais ensuite en Vendée. Alors en Vendée, on m'a dit, vous savez, ici on a du muscadet à large feuille. Alors je me suis demandé ce que c'était que ce muscadet à large feuille. C'était le Noah qui donne un hybride dont le vin rend fou d'ailleurs, finalement, enfin quelque chose d'effroyable. Évidemment, la destruction en masse de produits périssables comme la pêche pose des problèmes difficiles parce que, alors, il faut, pour les utiliser, naturellement, les conserver, soit sous forme de fruits déshydratés, soit sous forme de confitures, mais sous cette forme-là, on peut les conserver, par conséquent, les distribuer. Mais si on commence à les distribuer, ces fruits-là, alors, tout le mécanisme du circuit de l'économie de marché ne marche plus et on heurte tous les intérêts de l'économie de marché. Dès qu'on passe à l'économie distributive, évidemment, on sort de l'économie de marché.
Ben, dans mon enfance, on était en économie de marché. Il y avait des années très bonnes et je n'ai jamais vu brûler, détruire des pêches ou des abricots. Parce qu'on était moins bien organisé pour la destruction, peut-être.
Non, le niveau de production était tout de même beaucoup plus modeste. La surface des vergers était peut-être comparable, mais les rendements à l'hectare de ces vergers, du Roussillon, il n'y avait pas autant d'engrais que
Non, maintenant. Mais les facultés d'évacuation étaient beaucoup moins grandes. Oui, alors on avait des excédents énormes. D'ailleurs, il faut dire qu'il y en avait qui se perdaient sur l'arbre lui-même. Mais au moins, on ne dépensait pas de produits chimiques pour les détruire. Mmh. Et on ne le faisait pas à grands frais devant tout le monde pour montrer qu'on retire des fruits du marché exprès pour les faire monter.
Oui, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot chinois. Alors ça, je pense que là, c'est un exemple d'une société de non-gaspillage. Pour ma part, je cite toujours la Chine comme exemple au pays en voie de développement d'un pays qui se développe en comptant sur ses propres forces et en évitant toute forme de pollution et en évitant toute forme de gaspillage. Vous me direz naturellement que c'est pour eux nécessité parce qu'ils sont moins riches que nous, mais tout de même, c'est aussi parce que c'est une société de moindre inégalité que c'est une société de moindre gaspillage, parce que j'ai connu la Chine de l'inégalité, la Chine de 1929-32, où il y avait des riches et des pauvres et où les riches gaspillaient tandis que les pauvres avaient faim. Alors, on peut concilier le modèle chinois de développement au pays du tiers-monde, et c'est dans une certaine mesure ce que je fais, mais à ce moment-là, tout de même, je reviens d'Afrique, et alors je trouve un héritage culturel, des traditions sociologiques, des habitudes de vie et des genres de vie qui sont complètement différents, de sorte que La photocopie du modèle chinois, je ne la vois pas, se généraliser en Afrique tropicale, par exemple. Mais certaines leçons pourraient être tirées de ce modèle chinois.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en disant qu'il n'y a aucun gaspillage. Il n'y a probablement pas de gaspillage de produits. Encore que quand ils ont fait des hauts fourneaux dans les campagnes, oui, et qu'ils ont les détruire après, etc., ça a été, si vous voulez, pas des gaspillages, mais des erreurs. Mais il y a un très grand gaspillage, de notre point de vue d'Européens, si vous voulez, de travail humain. Des hommes qui travaillent pour très peu de choses, pour très peu de résultats, et ils n'ont pas un souci considérable de ce que nous appelons, avec un grand P, la productivité. Alors là, il y a des pertes qui peut-être sont la solution la plus humaine, je ne conteste pas, mais qui tout de même sont des pertes assez fortes. Et qui, pour nous, nous choquerait. Quand nous voyons faire 4 personnes pour le travail d'un seul, ça nous choque un peu. Nous, parce que chez nous, ça ne se fait pas, excepté dans les emplois supérieurs. Nous l'admettons très bien.
Oui, il y a dans les campagnes chinoises un peu plus de 2 travailleurs à occuper à l'hectare. Alors évidemment, si on employait des techniques américaines, les 2 travailleurs à l'hectare n'auraient pas de travail. Par ailleurs, la sous-productivité est aussi une des raisons de la sous-productivité, et la pénurie. Chaque fois qu'à Aix-en-Provence, je brûle mes bois surnuméraires, parce que j'ai une forêt spontanée que j'éclaircis peu à peu et je brûle, les jours où il n'y a pas de risque d'incendie naturellement, mais je ne peux jamais mettre le feu à mes bois surnuméraires sans évoquer les petites filles sur la route entre Canton et Hong Kong qui, au retour de l'école, sont munies chacune d'un fil de fer pointu et le long de la route où il y a des feuilles sèches, une à une, piquent chacune des feuilles sèches pour ramener une bande de feuilles sèches à la maison, c'est le seul combustible disponible dans la région. Alors évidemment, ce ramassage de combustible représente une des plus faibles productivités du travail. Mais c'est parce que la Chine n'a pas encore les moyens d'extraire et de transporter les quantités de charbon suffisantes. Et il est évident qu'il y a une sous-productivité élevée en Chine.
Tandis que chez moi, on brûle les sarments que dans mon enfance on portait avec amour vers la cheminée, on brûle les sarments et ces feux de sarments en ce moment font des feux de forêt qui sont assez coûteux.
Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous faites là?
Pour l'instant?
Oui.
Je suis en train de charger les ordures du marché.
Et vous pensez qu'il y a du gaspillage là?
Ah, ça va là-bas, ce frère.
Comment?
Je parle à l'arabe.
Vous pensez que les gens gaspillent beaucoup?
En principe, c'est-à-dire gaspiller de la marchandise, oui, bien sûr, des fois on en trouve des gigots dans les boîtes, on en trouve du pain, on en trouve beaucoup de choses dans les boîtes, en principe, oui.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, je trouve tout ça, c'est pas bien fait, c'est-à-dire il faut les donner aux gens, bien donner aux pauvres, moi je trouve tout ça, c'est pas bien, ça. En principe, ça se fait pas, ça, alors... Un gigot de bœuf, de moto, quelque chose comme ça, qui fait 2-3 kilos, on préfère le jeter dans les boîtes, mais pas au donner aux autres. Alors, même il y a des habillements, les déchirent, les massacres, pourvu qu'ils ne les prennent pas les autres. Money, it's
a crime. C'était un bref reportage de Jean-Louis Cavalier. Nous revenons maintenant au studio 105 pour la suite de ce dialogue, enregistré, je vous le rappelle, tous les mercredis à 21h à la maison de l'ORTF. Suite de ce dialogue, donc, entre René Dumont et Alfred Sauvy. Alfred Sauvy.
Il y a un point sur lequel nous serons probablement moins en accord. C'est sur la question de la population. Bien entendu, je sais très bien qu'il y a des populations qui montent en exponentiel, n'est-ce pas? Et nous le regrettons tous quand on voyons des familles de 7 enfants qui ne peuvent pas les nourrir et une décroissance de 3% par an, vous l'avez vu au Bangladesh, c'est épouvantable et nous pouvons dire c'est une erreur. Mais c'est pas seulement l'imprécation ou la désolation qu'il faut voir, c'est de savoir comment faire. Or, vous savez qu'il y a en ce moment dans l'Inde des stérilisations en masse à Kerala et à Gujarat, dans les 2 États, qui se font dans des conditions incroyables, que l'on n'imagine pas. On fait d'abord des kermesses, tout se fait dans festival. Comme on n'a pas pu employer la contrainte physique, puisqu'il y avait eu une proposition à Madame Gandhi de stériliser tous les pères de 3 enfants, qui était tout de même un peu délicat, du point de vue moral, physiologique, médical, etc., on a fait dans ces états des fêtes, avec musique, théâtre, des danses, des ballets, etc. Et au milieu de tout ça, il y a 40 petites cabines dans lesquelles on stérilise des hommes, Et dès qu'ils sont stérilisés, ils se lèvent, ils s'en vont, on leur donne un peu de pénicilline dans un flacon et une notice imprimée, la moitié ne savent pas lire, pour qu'ils puissent se soigner chez eux. Voilà où ces états en sont réduits. Je ne pense pas d'ailleurs que les méthodes employées habituelles dans le monde entier, à grand bruit, sinon et à grand frais aussi, aient une efficacité. Pour ça, je prends deux îles que vous connaissez bien toutes les deux, je crois, qui sont dans le même climat, qui ont à peu près les mêmes cultures, et aussi la même culture au sens général du mot. La Martinique et Porto Rico. À Porto Rico, depuis 25 ans, il y a une politique forcenée de birth control des Américains, avec tous les secours possibles, les infirmières, la propagande, etc. À la Martinique, il y a eu jusqu'à ces toutes dernières années une politique nataliste, interdit de vendre des diaphragmes, interdit de vendre des choses, et propagande nataliste. Or, la natalité de ces deux pays, de ces deux îles, est à peu près la même. Ce qui montre que ce n'est pas là le résultat. La natalité est à peu près la même parce que l'instruction de la femme est à peu près la même dans ces deux pays. Et vouloir résoudre le problème dans ces pays misérables en leur offrant des produits qu'ils sont incapables de consommer, parce que, dit-on, ça coûte beaucoup moins cher que de les instruire, c'est possible au point de vue calcul proprement économique, mais c'est absurde au point de vue résultat.
Oui, je pense que La solution du développement réside d'abord dans une réforme totale de notre méthode d'enseignement. La méthode d'enseignement traditionnelle, l'école primaire, qui aboutit à ce que la grande majorité des anciens élèves de l'école primaire ne peut pas accéder au secondaire. En Haute-Volta, 10% des élèves vont à l'école primaire. Et 1%, le dixième de ces 10%, pénètre à l'école secondaire. Alors l'école primaire produit d'abord 9 sur 10 des élèves qui sont éjectés de l'enseignement, qui ne peuvent plus travailler de leurs mains parce qu'ils sont diplômés de l'école primaire, mais qui ne peuvent pas poursuivre. Et le 1% qui, lui, ira à l'école secondaire, aboutira dans la fonction publique, où il aura une productivité extrêmement modeste. Alors, tout le monde est détourné de l'agriculture, tout le monde est détourné du travail manuel, et naturellement que l'agriculture ne progresse pas. Alors, ce que je propose, c'est l'alphabétisation fonctionnelle massive des paysans, donc l'instruction généralisée, la méthode des enseignants dont vous parlez dans votre livre, n'est-ce pas ? Et cette alphabétisation fonctionnelle permettra d'avoir une perception du monde moderne. Pendant longtemps, on a pensé que seule l'aisance, l'augmentation du niveau de vie, réduisait la natalité. C'est vrai. Mais actuellement, il n'y a pas d'espoir d'augmenter l'aisance rapidement dans ces pays-là. Mais il y a l'espoir et la possibilité d'augmenter rapidement le niveau de culture et peut-être aussi le niveau de conscience politique. Alors c'est là qu'il est intéressant de souligner qu'il y a deux pays dont la vitesse de réduction de la natalité était très supérieure par rapport à leur niveau de vie, c'est la Chine et le Nord-Vietnam. Alors là, c'est l'éducation politique, l'éducation générale et la motivation politique qui ont été un facteur de réduction des naissances. En tout cas, pour ma part, je lis dans le rapport de la Banque mondiale sur le Bangladesh que le Bangladesh aura 140 à 170 millions d'habitants en l'an 2000, mais que, dit la Banque mondiale, pendant les 30 années qui vont s'écouler d'ici là, nous prévoyons, dit la Banque mondiale, comme reasonable expectation, comme hypothèse raisonnable, qu'il y aura constamment 30% de chômage total dans les campagnes. Alors, avec les 45 millions de chômeurs prévus en l'an 2000, je ne sais pas ce qui se passera au Bangladesh.
Oui. Cette natalité, ce n'est pas une question de pilule pour ces pays-là, c'est une question de culture. Alors, dans certains pays, à Singapour, à Hong Kong, qui ne sont pas très riches, où les gens ne sont pas très riches, ils n'ont pas des salaires très élevés, mais ils sont suffisamment cultivés au sens très large du mot pour que la mortalité infantile soit tombée à 3%, c'est-à-dire à peine plus élevée que la nôtre, à peu près du niveau de celle de l'Italie. Et la natalité est tombée, elle aussi, et je crois bien que maintenant que une femme de Hong Kong doit avoir moins d'enfants que la française, ou à peu près, ça doit être à peu près au même niveau. Alors, quand une femme est suffisamment cultivée, je dis encore une fois, ce n'est pas instruite nécessairement de grammaire ou de calcul, suffisamment cultivée pour n'avoir que 3 chances sur 100 de perdre son enfant en une année, et dans des pays très chauds et pas très riches, ça prouve qu'elle est arrivée à un degré suffisant pour qu'à ce moment-là, elle puisse aussi appliquer des méthodes pour en avoir moins. Puis en même temps, elle donne tellement de soins à cet enfant, elle le sait, elle les a appris, qu'elle prend conscience de la valeur de l'enfant. Alors, au lieu de prêcher, comme tous les propagandistes du monde entier, de l'IPPF, l'animosité contre l'enfant, c'est au contraire l'amour de l'enfant, presque l'amour de l'enfant qui va réduire le nombre des enfants. Et quand la natalité a baissé en France au XVIIIe siècle, un siècle avant tous les autres, c'est parce qu'on avait tout d'un coup pris une passion pour l'enfant et qu'on l'avait considéré comme quelque chose d'important, de considérable, alors que jusqu'à ce moment-là, il était considéré comme négligeable. Et puis s'il mourait, il y en avait un autre après, que ça n'avait pas d'importance.
La société de gaspillage, pour moi, est en train de mener l'humanité à sa perte. Alors d'où le titre, l'utopie ou la mort, n'est-ce pas ? Et je pense qu'il faudra réagir avec une certaine brutalité contre cette société de gaspillage, parce que la voici qui est en train de détruire les ressources naturelles, de détruire les possibilités de production agricole, de détruire les ressources en eau, de détruire les possibilités de survie. Alors pour moi, je ne vois pas la possibilité de survie si on ne change pas notre système social en mettant fin au gaspillage. Alors, mettre fin au gaspillage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire allocation centralisée des ressources rares par un organisme mondial qui empêche d'abord que les ressources rares aillent à la fabrication des armements. Ça veut dire qu'il faut changer complètement notre conception de l'armement, notre conception de l'État. Toutes ces conceptions sont actuellement prématurées. Alors, qu'est-ce que c'est que l'utopie, en somme ? L'utopie, c'est une solution qui n'est pas acceptable actuellement parce qu'elle n'est pas acceptée par l'opinion publique courante. Donc, elle n'est pas réalisable. Et cependant, j'estime que, en l'état actuel, les gens qui sont raisonnables, qui ne sont pas utopiques, nous mènent à la catastrophe. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu réhabiliter le socialisme utopique que Karl Marx avait condamné un peu vite, parce que lui-même, d'ailleurs, à un moment donné, ne s'était pas craint de se lancer dans certaines formes d'utopie. Quand Karl Marx nous décrit la société du communisme, dans laquelle chacun disposera de tout ce qu'il voudra, l'extrême abondance, et à chacun selon ses besoins, c'est évidemment une vue qui me paraît parfaitement utopique. Par ailleurs, ce dépérissement de l'État, et cette évocation que fait Marx d'une société qui n'évoluera plus parce qu'elle sera arrivée à la perfection. Je pense, pour le bonheur de nos arrière-petits-enfants, que cette perfection, nous ne l'atteindrons jamais parce que ce serait une catastrophe. Il n'y aurait plus de contestation possible, il n'y aurait plus, de recherche nouvelle possible. Il sera arrivé à la perfection, ce serait la fin de... Non, je crois que cette hypothèse nous menace peu, M. Sauvé.
Oui, mais vous savez... que je souhaite une baisse de natalité dans les pays très prolifiques, là où la famille a 7 ou 8 enfants, qu'elle devienne de 3 ou 4, bien entendu, du point de vue du souhait, il n'y a pas de question. Mais chez nous, il y a de grosses émotions. Et la natalité, c'est une question beaucoup plus passionnelle que raisonnée. On a peur. On a peur ou de la dépopulation, ou de la surpopulation. On a l'angoisse. Or, en ce moment, dans les pays d'Europe et d'Amérique, c'est l'angoisse qui prédomine. J'ai vu des Australiens qui sont 15 millions, je crois, dans une île immense, 13 millions, oui, et qui sont terrifiés. Et à l'idée de recevoir 4000 Ougandais, ils disaient, mais vous voulez-vous que nous les mettions ? Enfin, ils étaient absolument terrifiés et ils propageaient partout l'idée croissance zéro, etc. Je pense que dans l'Europe... Bien sûr, il pourrait très bien se faire que nous ayons 3 fois moins d'habitants. Si le passé avait été comme ça, on pourrait très bien vivre, même avec le machinisme moderne, on pourrait trouver des moyens, les États-Unis d'ailleurs, l'Australie le montre, on pourrait trouver moyen de vivre avec beaucoup moins d'habitants. Seulement, on ne peut pas y arriver parce qu'on ne peut y arriver à moins de tuer les vieux, ce qui n'a pas encore été proposé, quoiqu'il y ait quelques tentatives tout de même très discrètes dans ce sens, tout au moins de les laisser mourir. La diminution de la population ne se fait que par les jeunes. Or, si la société doit changer, et vous êtes bien d'accord qu'elle doit changer, et notamment socialement, le plus sûr moyen qu'elle ne change pas, c'est de supprimer la jeunesse, c'est de réduire la jeunesse. Une société sans jeunesse ne changera pas. Elle restera ce qu'elle est et elle tombera d'elle-même, elle tombera de vieillesse et de sénescence. C'est pourquoi l'effondrement, par exemple, de la natalité en Allemagne, maintenant, je le considère comme quelque chose de grave. Il est possible que ce soit une période d'affolement que traversent les Allemands et puis que dans 2 ans, ils fassent autrement. Mais s'ils ne font pas confiance à la jeunesse, ils seront perdus. C'est le seul atout, c'est le seul moteur. Alors il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas diminuer une population sans toucher à sa jeunesse, et qui est précisément le moment, l'arme avec laquelle on est capable de changer une population. Ce n'est pas pour préconiser une remontée de natalité au-delà de nos moyens, mais c'est pour dire que la solution que l'on croit bonne de stériliser les populations occidentales est une idée erronée, qui d'ailleurs, au point de vue pollution, ne donne aucun résultat, parce que la mauvaise expansion économique que vous avez dénoncée a fait 30 fois plus pour la pollution que l'augmentation de la population. Même le rapport américain sur l'économie, sur la population des États-Unis l'a montré, bien qu'il fût malthusien à l'extrême. Alors, il y a un danger de ce côté-là, et le Conseil de l'Europe va avoir à en discuter bientôt, et je crois qu'il faut pas céder à un vent de panique. Et moi, je préférais que l'expansion, au lieu de se faire à 6% par an, se fasse à 4% d'une façon convenable, voire à 3%. Nous vivrions mieux et nous pourrions vivre tout de même avec nos deux ou trois enfants qui sont nécessaires pour que les choses continuent et continuent dans le sens du progrès.
Deux, trois enfants, ça fait une population mondiale qui dépasserait les 6 milliards en l'an 2000. Moi, comme agronome, je dégage toute responsabilité. Et ça m'amuse toujours...
Deux ou trois enfants, nous n'aurions pas 6 milliards. Deux ou trois enfants, nous aurions la même chose que maintenant. C'est le nombre qui reproduit.
On va vers l'état stationnaire. Moi, j'étais plus loin et j'ai proposé, dans certains cas, une diminution de la population. Mais alors là, je me demande comment les démographes s'y prennent. Mais quand j'entends Sauvy évoquer les vieux qui n'ont pas de dynamisme, etc., je me demande si dans la salle de bain de Sauvy, il y a une armoire à glace et s'ils se regardent quelquefois dans la glace, parce que quand même... à mon avis, il y a actuellement des gens qui, à un certain âge, ont encore gardé une certaine combativité. Enfin, je pense, pour ma part, être aussi de ceux-là. Alors, je sais pas.
Écoutez, je vais vous faire une confidence, une chose je vais en dire que la moitié est vraie et l'autre moitié est anticipée. Au XVIIIe siècle, quand la population a commencé à augmenter un petit peu et que l'industrie a commencé à augmenter un petit peu aussi, il y a un homme extrêmement prévoyant, très clair, qui a dit « L'humanité va mourir parce que nous ne manquerons de bois, nous n'aurons plus de bois. » Étant donné qu'on va diminuer les forêts puisque nous sommes plus nombreux, et au bout de quelque temps, nous n'aurons même plus de quoi faire notre cuisine, et nous chauffer, faire nos maisons, etc. Et cet homme avait tout à fait raison dans son calcul, il était comme maintenant dans notre optique. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le charbon, ou plus exactement, qu'on a exploité le charbon qui était plus ou moins connu depuis les Romains. Eh bien, s'il y avait eu une population âgée, une population vieille, elle serait morte de froid, sans bois ni charbon. C'est pourquoi je crois toujours, malgré tout, à la jeunesse. Et les ressources du monde sont encore très loin d'être épuisées. Mais si la jeunesse n'est pas dans le coup, si nous la supprimons, alors là, nous pouvons être sûrs de la disparition. C'est la recette absolument certaine. Money, it's a hit. Don't get me that do-goody good bullshit. I'm in a high-fidelity first-class traveling set, and I think I need a lift yet.
Sur la conclusion relativement optimiste d'Alfred Sauvy, s'achève le dialogue proprement dit entre Alfred Sauvy et René Dumont sur le thème pour en finir avec la société de gaspillage. Et nous poursuivons dans quelques instants, en compagnie des Pink Floyd pour l'instant, les dialogues enregistrés, je vous le rappelle, chaque mercredi à 21h au studio 105 de la maison de l'ORTF, avec les questions du public. Première question dans la salle du studio 105, monsieur.
Alors, de ce débat que j'ai trouvé intéressant, instructif, je relève quatre sortes de questions que je pourrais vous poser. Premièrement, vous avez parlé des Chinois. Alors, vous avez dit les Chinois et les jeunes nous reprochent notre économisme. Eh bien, en fait, c'est un peu la remarque, la critique que je vous ferai. Nous avons parlé trop d'économie et pas assez de politique. Parce que finalement, dans tout ce débat sur la société de consommation, sur le gaspillage, sur la pollution, sur les thèses malthusiennes que nous aborderons ensuite, il demeure un mystère finalement. Qui est responsable? Est-ce que c'est le commun des mortels? Est-ce que c'est le petit postier, le petit ouvrier, le petit paysan? Ou bien au contraire, est-ce que ce sont les classes dominantes, les classes possédantes? Ou pour employer un jargon qui n'est pas marxiste, les riches, tout simplement. Autrement dit, est-ce que ce n'est pas un système qui est mis en question? La seconde question que je voudrais aborder, c'est le thème d'une troisième voie possible. En effet, longtemps, on a dit la société, le monde, l'univers se divise en deux sortes de sociétés possibles, et on opérait ainsi cette dichotomie, les socialistes et les capitalistes. Le monde socialiste, le monde rouge, et le monde capitaliste, le monde des blancs, le monde libre. Aujourd'hui, depuis quelque temps, il est très à la mode, c'est très dans le vent, de dire qu'il y a une troisième voie possible et d'invoquer la voie du tiers-monde. Et à ce sujet, je voudrais vous demander si vous êtes d'accord avec ce que dit un politicien que tout le monde connaît, c'est M. Duverger, qui dit que si un martien venait sur Terre, il serait moins étonné des différences qu'il existe entre les pays socialistes et les pays capitalistes que des différences qu'il existe entre les pays développés et les pays du tiers-monde, les pays en voie de développement. Pour ma part, je me dis que si les différences qu'il existe entre les pays en voie de développement et les pays industrialisés ne sont que quantitatives, les différences qu'il existe entre les deux systèmes, socialistes et capitalistes, sont elles qualitatives. Alors peut-être que dans le fond, dans la substance même des systèmes, la différence est plus profonde, plus essentielle. Alors c'est une question que j'aimerais être une réponse que je voudrais voir développée ici. Alors le troisième genre de question, je m'excuse d'accaparer un peu la parole, mais enfin, j'espère lancer le débat de cette manière. Au sujet de Malthus, en fait, les thèses malthusiennes sont extrêmement anciennes. On a toujours parlé d'une croissance, d'une paupérisation, d'une misère qui devait s'abattre sur le monde. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un renouveau avec les thèses de Mansholt, les rapports Midow, par exemple, le rapport du Club de Rome. Il y a un renouveau des thèses malthusiennes. Et je me demande dans quelle mesure ce n'est pas un fiasco et ce n'est pas un peu une tarte à la crème, finalement, de nous présenter ces thèses malthusiennes sous un nouveau jour. De dire que, finalement, la croissance entraînera une paupérisation mondiale. Et je suis parfaitement d'accord avec Sauvy lorsqu'il dit « je croise à la jeunesse ». En fait, c'est vrai, nous analysons l'avenir avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Mais en fait, l'avenir ne se préoccupe pas des moyens que nous avons aujourd'hui. Le quatrième sorte de question, c'est au sujet du socialisme utopique et socialisme scientifique. Vous avez dit que finalement, même le communisme scientifique, le communisme marxiste, était un peu utopique. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, dans le sens où il y aurait plusieurs définitions d'utopie. Si le mot utopie, si on comprend le mot socialisme utopique, dans le sens où socialisme de nulle part, pays de nulle part, alors on a raison de considérer le marxisme, à l'époque de Marx, comme une doctrine utopique. Mais seulement lui-même a fait justement cette différence, il a voulu se démarquer des socialistes utopiques et dire que lui, à la différence des Saint-Simoniens, par exemple, ne se contentait pas de décrire un monde qui n'existait pas. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il décrivait un monde, il imaginait un monde à partir des données présentes, à partir d'une analyse matérielle. Et je crois que même en n'étant pas marxiste, même en étant anti-marxiste, on ne peut pas reprocher à Marx d'avoir fait une analyse erronée, une analyse partielle, une analyse fausse de la réalité du monde du XIXe siècle. Donc de ce côté-là, je ne serais pas entièrement d'accord. Alors je laisse la parole aux autres, je vois qu'il y a eu des mouvements.
Ben, je crois que soit René Dumont, soit Alfred Sauvy ont peut-être à répondre sur cet ensemble de questions.
D'un mot, je veux dire que notre questionneur emploie le mot socialisme au singulier, ce qui est une inappropriation totale. Il y a actuellement des socialismes complètement divergents et je ne refuse de répondre au socialisme parce que je ne sais pas ce que c'est. Il y a le socialisme soviétique, je mets des guillemets quand on parle de socialisme soviétique, surtout quand on évoque Prague, n'est-ce pas ? Je ne peux pas considérer qu'il y ait socialisme en Union soviétique. Il y a des éléments d'appropriation collective des moyens de production qui ont été confiés à l'État, mais pour ma part, ce n'est pas ce que j'appelle du socialisme. Il y a des éléments plus marqués de socialisme en Chine, mais qui sont tellement différents qu'il y a risque d'hostilité. Le plus grand actuellement est entre la Chine et l'Union soviétique. Par conséquent, je crois qu'on peut dire, et il y a tous les socialismes que l'on peut imaginer, et personne n'a le monopole du socialisme. Et il y a des socialismes. Le socialisme, pour moi, est une société qui viserait l'épanouissement de l'homme dans le service de la communauté, dans le service de la collectivité. Il sera éternellement imparfait et éternellement éternellement contesté.
Monsieur Sauvy, vous voulez ajouter quelque chose ?
La question des Martiens du verger, je ne sais pas s'il l'a précisé, elle est d'ailleurs très connue et ancienne. Tout dépend de savoir s'il ne sait regarder que les choses ou bien s'il sait regarder les comptabilités. Alors s'il sait regarder que les choses, bien entendu, il ne verra pas tellement de différence entre l'Union soviétique, la Hongrie, la France, la Hollande, etc. Il y aura un peu moins de voitures dans l'un, mais enfin, il ne verra pas de différence fondamentale. Et s'il voit alors un pays pauvre, il voit des différences considérables. Mais par contre, s'il connaît les comptabilités et la façon, il verra qu'il y a une différence tout de même profonde de système général dans l'attribution des produits, puisqu'il y a un certain socialisme dans certains pays et pas dans d'autres. Sur Malthus, il est incontestable que nous retrouvons, Malthus est l'homme le plus mal connu qu'on connaisse, il y a des gens qui m'ont dit qu'il avait inventé la pilule, Malthus est l'homme qui était le riche, qui ne voulait pas que les pauvres augmentent parce qu'il ne voulait pas partager avec les pauvres. Et maintenant, l'imprécation qu'il y a contre la multiplication des pauvres, que je comprends très bien, c'est fâcheux qu'ils se multiplient comme ça, mais cette imprécation est un détournement de culpabilité que les pauvres, parce que les riches ne veulent pas montrer qu'ils gaspillent l'ensemble du monde, qu'ils détruisent l'ensemble du monde, et alors ils reportent la culpabilité sur les pauvres, qui ne risquent tout au plus que d'être victimes elles-mêmes de leur propre sort, tandis que les riches font du tort à l'ensemble du monde. Il y a une différence tout à fait profonde. Sur Marx utopique, tout le monde est utopique. Tous ceux qui essayent de prévoir, et je crois pouvoir vous dire que la seule prévision sûre que l'on puisse faire sur l'an 2000, c'est la très grande hilarité qu'auront les gens de cette époque, dont vous êtes beaucoup, quand ils reliront les prévisions qui auront été faites sur leur temps. Je pense que c'est la seule prévision qu'on puisse faire. Mais Marx, de son temps, quand il a prévu la distribution, d'abord il n'était pas le seul, il y en avait beaucoup qui avaient prévu la distribution, et le système sans police, etc., le curé Mélier et bien d'autres au XVIIIe l'avaient prévu. Ce n'était pas une idée extrêmement originale. Il a eu la très grande habileté de ne pas donner la date, mais ce qu'on peut voir rétrospectivement et qu'on ne sait pas, c'est qu'il était plus facile, beaucoup plus facile de concevoir la distribution du temps de Marx et même d'Engels qu'aujourd'hui. Par exemple, sur le plan médical, c'était beaucoup plus facile d'imaginer un médecin qui vient chez une dame et qui dit « Avez-vous une petite cuillère pour regarder la gorge de l'enfant ? Elle est blanche, vous allez lui donner cette potion ?» que maintenant de faire des perfusions à tous les urémiques. Alors nous sommes beaucoup plus loin de la distribution possible parce que nos besoins ont augmenté beaucoup plus que nos productions. Et c'est ça ce que l'on ne sait pas. Et alors quand on pense à la distribution selon les besoins maintenant, il est évident qu'elle s'éloigne de plus en plus. C'est qu'aux mesures qu'on va de plus en plus loin, on n'imagine pas tout de même qu'on va distribuer des voyages dans l'Apollo sur la planète à qui voudra s'en payer gratuitement. Donc nous nous éloignons de la distribution, mais elle n'était pas folle du temps de Marx. Et Marx vivait dans son temps, il vivait à une époque où la vie moyenne était de 41 ans, où les besoins de l'homme étaient très modestes, où il n'y avait pas de voiture, où les riches ne savaient que faire de leur argent, il y avait des grandes tentures et des habits et mangeaient trois fois plus qu'il ne faut. Par conséquent, ce n'était pas du tout absurde, ce n'était pas utopique, mais ça l'est devenu depuis, à cause de la progression de nos besoins.
Une autre question.
Ce que vient de souligner le frère Sauvy, c'est en effet cette comparaison entre les disponibilités au siècle dernier et c'est ce besoin actuel, enfin, qui se manifeste par la civilisation de consommation. Seulement, il est peut-être une notion très intéressante. On peut peut-être introduire la notion de produit demi-fini. C'est-à-dire que si les objets finis sont en effet à la fois très onéreux et en même temps très séduisants pour l'ensemble de la clientèle, par contre, quelque chose qui pourrait peut-être préfigurer une civilisation post-industrielle, c'est, disons, une meilleure répartition en nature au niveau de produits demi-finis. Ce que les gosses, par exemple, on appelle les kits, qui permettent de se fabriquer, disons, un petit magnétophone ou une petite voiture, disons, enfin vraiment le système du jouet, qui à partir d'éléments demi-finis, donne à l'utilisateur l'agrément de monter son truc et évite un salariat énorme au niveau de la réalisation de l'objet. Or, si l'on concevait l'automatisation et l'industrialisation, non plus au niveau de l'objet fini, à coup de travail à la chaîne, mais au niveau de l'élaboration de produits demi-finis qui ultérieurement permettraient à des usagers de se fabriquer ce dont ils ont besoin, au niveau modulaire, à ce moment-là, le problème est totalement reposé d'une manière différente de celui dont on est le poser. Sur le plan, par exemple, de la recherche médicale, c'est la même chose. Si l'on conçoit le coût actuel de la thérapeutique médicale en termes de produits finis, enfin en termes de spécialités pharmaceutiques, c'est prohibitif, c'est inextricable. Mais si on conçoit cela en termes de prestations de produits de base, c'est encore moins coûteux que ce que pouvait être la médecine du siècle dernier.
Oui, merci. Vous évoquez le travail à la chaîne. Pour moi, le travail à la chaîne, c'est le symbole de la civilisation de l'automobile privée. Le jour où il n'y aura plus que des transports collectifs, la quantité de travail nécessaire sera considérablement réduite et on sortira facilement du travail à la chaîne. Mais alors, il faut envisager d'en sortir sans créer du chômage. Et dans notre système capitaliste, c'est une tâche qui n'est pas commode.
Le système que vous préconisez, on y a été un petit peu dans une certaine mesure, c'est le « help yourself ». On n'a pas fait tellement pour soulager les usines, on a fait parce qu'on ne trouve pas. Et de plus en plus, on vous vend des appareils avec lesquels vous pouvez faire vos soudures, vous pouvez faire votre maison, etc. C'est pas seulement les enfants qui jouent à la construction, ce sont les grandes personnes. À ce moment-là, ça poserait, si on l'étendait, des questions de temps. Parce que l'homme qui fait ses propres travaux, c'est beaucoup plus amusant, beaucoup plus humain, tout ce que vous voudrez, mais ça représente tout de même beaucoup plus de temps, d'heures de travail, et ça trouverait tout de même assez vite ses limites. En tout cas, il y a certainement des choses à faire, et qui se feront dans ce domaine, mais il y a tout de même des impossibilités, on ne va pas faire des concordes dans des ateliers de village, et sur le plan médical, je ne pense pas du tout qu'on puisse arriver, on s'en éloigne au contraire, et malheureusement, de plus en plus, puisque même le généraliste disparaît ou est menacé de disparition, que l'on ait des techniques médicales qui ne peuvent être employées qu'avec des grands spécialistes et des appareils de plus en plus complexes. Or, je suis comme tout le monde un admirateur de Diogène, de Rousseau, de Fourier, de tout ce que vous voudrez, bien sûr. J'aimerais beaucoup vivre cette vie près de la nature. Mais dites-vous bien maintenant, tous ceux qui essayent de la vivre, qui font des communes, des communautés à droite à gauche, dès qu'ils sont malades, dès qu'ils ont un enfant malade, la première des choses qu'ils souhaitent, c'est de trouver tout l'appareil médical de la société, tout prêt pour les recevoir, avec ses médecins, ses appareils, ses infirmières, ses hôpitaux, ses ambulances pour les recevoir, etc. Sans ça, ils souffriraient, puisque cet appareil existe. Or, comme personne ne songe à détruire la question de vie humaine, n'est-ce pas, qui est au fond des choses et que l'on oublie toujours, c'est ça ce qui empêche le retour à une vie plus naturelle. C'est cette question de longueur de la vie humaine, c'est-à-dire de mort, qu'en dehors de la route où nous l'acceptons facilement, nous la refusons partout avec énergie, et nous voulons que l'on nous donne tous les moyens possibles, et on en trouve tous les jours davantage, et qui sont tous les jours de plus en plus coûteux.
Une question ici, monsieur.
J'étais très heureux d'entendre Monsieur Dumont et Monsieur Sauvy, que j'ai lu depuis un certain nombre d'années, et je me permets de leur rappeler tout de même l'influence internationale qu'ils ont pu avoir dans les débats de l'ONU et dans la chose, et je me demande s'il ne serait pas le moment de relancer l'intérêt de la communauté mondiale entre les pays.
René Dumont.
Si oui. Vous lisez le rapport Jackson, n'est-ce pas, vous y voyez que déjà tel qu'il existe, le système des Nations Unies est à peu près impossible à gérer à mesure qu'il grandit. Alors, un gouvernement mondial qui voudrait être un réel gouvernement me paraît être une absurdité. Mais je pense qu'on pourrait confier à certains organismes mondiaux certaines fonctions destinées à assurer la survie de l'humanité. La survie de l'humanité, c'est la protection de l'environnement. La survie de l'humanité, c'est l'utilisation rationnelle des ressources rares. Et je propose pour ma part une allocation centralisée des ressources rares, de façon à ce que nos arrière-petits-enfants puissent aussi en profiter. Mais il faut du même coup que nous centralisons certaines fonctions, que nous en décentralisons d'autres, parce que seul, au niveau local, on peut concevoir les problèmes. Je reviens de Haute-Volta, je reviens du Bangladesh. Eh bien, dans ces deux pays, j'ai trouvé l'absence de organismes villageois, l'absence de vie économique et politique, même à l'échelon du village, qui est la carence fondamentale. La commune du Bangladesh, d'avant les Britanniques, gérait elle-même ses affaires de terre et d'eau. Maintenant, les Britanniques sont arrivés, ont introduit le droit occidental, alors on gère tout ça au tribunal. Dispute de terre, dispute d'eau, tribunal de l'arrondissement. Naturellement, ça coûte très cher, et au tribunal, c'est le riche qui a raison, ça, il n'y a pas de problème. À l'échelon du village, ce n'était pas toujours vrai, parce que la pression de l'opinion publique jouait. Par conséquent, il nous faut combiner une double action de mondialisation, évidemment pour éviter les guerres autant que possible, et de décentralisation pour donner une participation plus exacte, plus réelle aux populations. C'est une dialectique difficile à manœuvrer.
Monsieur Sauvy, oui.
Oui, je voudrais ajouter, d'abord je me trouve beaucoup plus maintenant en harmonie avec René Dumont, parce que ce n'est pas que je ne crois pas dans le sens de croyant au gouvernement mondial, je le souhaite, je l'espère, etc., mais je n'y crois pas que, du point de vue réalisme et avant très longtemps, et en tout cas je ne pense pas qu'il faille dire « moi je suis mondialiste, j'attends le gouvernement mondial, donc je ne fais rien ». C'est ce qui arrive très souvent quand on a, et c'est pas le cas d'ailleurs de René Dumont bien entendu, c'est ce qui arrive bien souvent quand on a une très bonne idée, on dit « ben moi c'est ça, j'ai mon idée, elle est bonne, et je m'y tiens, et par conséquent je n'ai rien à faire, je n'ai qu'à m'y contenir ». Or nous devons agir. Et je suis étonné, le projet que vous disiez, qui n'est pas abouti, qu'il n'y ait pas une institution spécialisée qui finirait par prendre peut-être le dessus sur les autres et qui s'appellerait la nature et les hommes. Et qui mettrait les questions d'environnement, bien entendu, de nature et de population. Cette institution, ne s'occupant que de ça, finirait tout de même par avoir une autorité, pas juridique, mais sur les autres, mais elle finirait tout de même par avoir une amorce de choses mondiales. Je ne dis pas que la politique n'y jouerait pas son rôle, bien entendu, il ne faut pas s'imaginer que tout le monde il est bon et tout le monde il n'est pas politique, mais il y aurait un tel attrait dans la question et un tel enjeu que les passions politiques finiraient tout de même par s'estomper et on aurait là une espèce d'école qui pourrait plus tard, alors je ne sais quand, mener à un gouvernement mondial.
Vous avez ajouté quelque chose, monsieur.
Je me demande s'il n'y aurait pas une politique des revenus à préconiser. On dit qu'en France, les revenus vont de 1 à 300, peut-être après impôt, de 1 à 200, si on ne pourrait pas les, du moins préconiser pour plusieurs générations de les ramener dans un rapport beaucoup plus étroit, de 1 à 20 ou 1 à 40. Enfin, comme dans les pays, certains pays socialistes, comme le Danemark, la Suède, même l'Allemagne, même les États-Unis, qui ensuite repartagent leurs biens, et comme Rockefeller, qui construit des hôpitaux et des universités, ont gagné de l'argent et redistribuent ensuite. D'une part. Et puis les fortunes aussi pour limiter le nombre de fortunes, enfin limiter à 1 million, à 100 millions, puis le restant serait ensuite redistribué au pays. Enfin, il y aurait des politiques sociales. Je crois assez dans les institutions de formule. Chacun a ses chances de la vie de s'enrichir individuellement et ensuite de redistribuer. Il aurait droit à une médaille ou à des décorations pour ensuite redistribuer. Enfin, il y a toute une politique à mettre en œuvre. C'est pas facile parce que l'homme est égoïste et altruiste. Il y a un mélange d'altruisme et d'égoïsme dans chaque homme. Mais il y a un idéal, justement, dans cette jeunesse à promouvoir.
Et ce que vous proposez là, c'est en somme la méthode suédoise. La méthode suédoise qui garde le capitalisme comme agent de production, mais qui réalise efficacement une redistribution réelle des revenus. Il est évident que les revenus sont beaucoup moins inégaux et que c'est la lutte contre le gaspillage passe par une redistribution des revenus. C'est les riches qui gaspillent. Si vous écrêtez leur richesse et vous distribuez une part de leur richesse aux pauvres, il est bien évident que le gaspillage sera considérablement réduit.
Alfred Sauvy.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la répartition des revenus en Suède. Les Wallenberg, sur Ferrer, ont une fortune considérable, énorme, et des revenus par conséquent aussi énormes. Si on veut vraiment diminuer la course aux besoins, étant donné, bien entendu, que ce sont les riches qui créent les besoins pour les autres, de 1 à 20, ça serait très insuffisant, ça resterait à peu près ce qu'elle est. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Pour le moment, les fonctionnaires, je parle de revenus nets, n'est-ce pas, une fois les impôts payés. Pour le moment, les fonctionnaires ne sont pas de 1 à 20, ils sont de 1 à 10, et quand l'impôt est passé, ça fait beaucoup moins. Alors, par conséquent, ça pose le problème pas tellement uniquement des salariés, mais ça pose tout le problème de l'entreprise. Alors, si on admet l'entreprise, il y aura des gros revenus. Il ne peut pas y avoir un système de libre entreprise qui suppose que celui qui réussit gagne plus, etc. Il faut à ce moment-là admettre le socialisme. On ne peut pas espérer à la fois avoir les avantages du capitalisme, de l'initiative privée, etc., et sans la bureaucratie socialiste, et en même temps avoir une distribution des revenus très équitable, que tout le monde souhaite à peu près, excepté ceux qui sont juste au-dessus, naturellement.
Monsieur du quatrième rang, vous avez le micro.
Dans un récent congrès qu'a eu Giscard d'Estaing sur l'expansion, auquel vous avez peut-être assisté, il me semble, le premier ministre suédois, Monsieur Palm, voyait qu'en France, ou dans les pays anglo-saxons, l'un des dangers serait plutôt les diplômés. Monsieur Robert Aron aussi s'étonnait que le travail d'un agrégé fait le même travail qu'un licencié d'université, avait un salaire beaucoup plus important. Alors je me demande si dans les régions comme chez nous en France, on n'est pas atteint par la maladie des diplômes. Enfin, que les uniquement les connaissances et non l'efficacité d'un travail.
Mais dans une société socialiste, il est évident qu'il faudrait redistribuer le travail. Dans une société socialiste, il y a l'éducation permanente. Tout le monde peut accéder à l'université. Par conséquent, il faut que tout le monde participe aux travaux manuels. Et à ce moment-là, il faut une répartition. Pourquoi est-ce que le professeur d'université n'irait pas ramasser les ordures une heure ou deux le matin avant d'aller faire son cours en Sorbonne? Il n'y a aucune raison. Bon.
Une simple réflexion, parce que monsieur disait qu'il serait tout à fait normal qu'un professeur de faculté ramasse des ordures 2 heures par jour. Alors moi, je proposais de prendre le ramasseur d'ordures et de lui faire faire 2 heures de cours à l'université pendant ce temps-là.
Mais bien sûr, madame, que le ramasseur d'ordures a droit à suivre des cours. Tout le monde a maintenant.
Ah non, monsieur, je n'ai pas suivi les cours, les faire.
Mais madame, je suppose que j'ai à apprendre des choses d'un ramasseur d'ordures. Je ne connais pas un homme sur le globe qui ne m'ait rien appris, madame.
Mais moi aussi, je suis de cet avis, monsieur.
Alors, nous sommes bien d'accord.
Et les gens, ils s'en foutent pas mal. Ils jettent les papiers, ils jettent des sacs, et je suis même dans les papiers, ils les ramassent. C'est dit, il y a tellement beaucoup de travail sur le service nettoyement. À cause de ça, alors on est tellement emmerdé par nos chefs, par notre travail, c'est-à-dire on a beaucoup de travail, on ne peut pas faire tout ça. On n'arrive pas, en même temps, on n'est pas assez payé à chaque fois avec toutes les grèves qu'ils ont déjà passées. On n'arrive jamais à faire quelque chose de magnifique. Malgré qu'on nettoie aujourd'hui, on passe une heure après, il y a toujours du boulot alors dessus, sur les quartiers. Je ne sais pas moi ce qu'on avait fait, mais pourtant on fait tout nos possibles à vivre ensemble, comme des frères, comme amis. Parce qu'on est nés, on est tous dans la poussière. On est là pour faire quelque chose de magnifique pour l'ensemble, tous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Oui, comme le disait justement René Dumont, et ce témoignage le montre bien, tout le monde a à apprendre quelque chose à chacun sur la Terre. Mais nous revenons aussi au 105. Monsieur, une question ?
Écoutez, depuis le début du dialogue, je suis en train de me demander combien de définitions du mot socialisme il peut y avoir. C'est vraiment un dialogue de sourds. Il y en a un qui parle du socialisme aux États-Unis, l'autre qui répond par le socialisme en Chine, l'autre qui affirme que le socialisme, ma foi, ça n'existe pas dans les pays de l'Est. Alors vraiment, on n'y comprend plus rien. Personnellement, je pense que le socialisme scientifique, on en a parlé tout à l'heure, veut dire quelque chose de bien précis, veut dire dictature du prolétariat, c'est-à-dire dictature de la classe ouvrière, dans un but bien précis, c'est d'empêcher l'ancienne classe dominante de revenir au pouvoir. Ça veut dire autre chose, ça veut dire accaparation des grands moyens de production, suppression de la propriété privée, et ça veut dire également, on l'oublie bien des fois, ça paraît comme un but sentimental, mais c'est épanouissement de l'individu.
Alors, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une contradiction entre l'épanouissement de l'individu et la dictature du prolétariat qui sera réalisée par qui, cette dictature ?
Moi, je pense qu'il y a un lien...
Permettez, qu'est-ce que c'est que le prolétariat ? Le prolétariat, c'est représenté par quelqu'un. Alors, on a vu la dictature du prolétariat dans des cas particuliers. On a vu que la dictature du prolétariat, c'était remettre les pouvoirs au parti, que le parti remettait les pouvoirs à un homme, et on a abouti au stalinisme. Alors, tout de même, on fait des réserves. Hein ? Par ailleurs, vous dites suppression de la propriété privée. Ça veut dire quoi, cette suppression ? Il faudra encore préciser. Ça ne veut rien dire du tout. Qui va gérer ces grands moyens de production ? Est-ce que ça va être... aux travailleurs, l'autogestion ? Est-ce que ça va être à l'État ? Est-ce que ça va être à la commune ? Est-ce que ça va être à la province ? Bon, alors, voyez-vous que votre définition, elle est extrêmement sommaire. Hein ? Il faut aller beaucoup plus loin, et il n'y a pas de socialisme scientifique, parce qu'il y a des quantités d'interprétations possibles du socialisme, dont personne ne peut prétendre qu'il a la meilleure. Hein ? Moi, j'ai proposé certaines définitions tout à l'heure, mais je n'ai pas dit que je vous avançais un socialisme scientifique. Une fois, la pensée m'a dit que j'étais un socialiste sentimental, et j'ai relevé, je suis un socialiste sentimental, parce que c'est le sentiment de l'injustice, et la guerre de 14, où j'ai vu le massacre des jeunes soldats, qui m'a amené au socialisme. Sans sentimentalité anti-injustice, vous n'êtes pas socialiste. Donc le socialisme scientifique est impossible. C'est une vue de l'esprit.
C'est votre opinion, de toute manière.
Naturellement.
Ce n'est pas l'opinion.
Et je prétends que mon opinion est éminemment discutable. C'est en cela que je suis scientifique.
Et ça n'engage que vous, évidemment. Non. Mais pour des millions de personnes qui habitent les pays de l'Est ou la Chine, je sais très bien qu'il y a des critiques qui peuvent être faites. Eh bien, le socialisme scientifique existe. Je m'excuse, il existe.
Enfin, alors, est-ce qu'il est à Pékin ou est-ce qu'il est à Moscou ?
Comment ?
Est-ce qu'il est à Pékin ou est-ce qu'il est à Moscou ?
Moi, je pense que entre les différences qu'il peut y avoir entre Moscou et Pékin sont des différences minimes.
Ah bon ?
Et que les pays capitalistes veulent justement aggraver. Mais je vois qu'il y a des soupirs. Enfin, il n'est pas interdit de prendre la parole. Les personnes qui soupirent peuvent très bien prendre la parole. Hein, je m'excuse. Alors, les personnes qui contestent, prenez le micro. Exprimez-vous. On n'est pas encore en Chine ou en URSS. Enfin.
Alfred Sauvy ?
Non, je crois, monsieur, que vous avez tout de même des formules qui datent. Et il n'y en a pas qui datent plus que dictature du prolétariat. J'admets les idées les plus avancées qu'on voudra, qu'on propose les sociétés de très très différentes. Je n'ai aucune objection de principe. Ce qui me choque, et je l'ai dit aux jeunes à différentes reprises, c'est quand vous sentez des choses anciennes. Or, le mot dictature du prolétariat convenait à une certaine époque. Le mot prolétariat lui-même convenait à une certaine époque. Et maintenant, on ne sait plus très bien ce que c'est que le prolétariat. Étant donné qu'il y a 75% de salariés, ou 80, demain il y en aura 80 ou 85%, est-ce que c'est ces 85% qui constituent le prolétariat ? Est-ce que c'est eux qui vont faire une dictature, auquel cas ça n'aura plus de sens ? Si c'est une dictature de toute la population, ce n'est plus une dictature. Alors ce mot dictature du prolétariat, qui avait un sens du temps de Lénine extrêmement précis, encore qu'il s'est vite transformé, évidemment, parce qu'il ne pouvait pas y avoir une dictature d'illettrés, est maintenant un mot démodé qu'il faut rajeunir, il faut dire ce que ça contient. Alors si on garde la formule, celui qui a des idées arrêtées, monsieur, c'est celui qui n'avance pas.
Monsieur, pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes, monsieur Dumont a parlé tout à l'heure des théories de Rostov, bien connues, de décollement, etc., les cinq étapes. Est-ce que vous pouvez dire si il s'agit d'un échec définitif ou simplement d'une lente évolution dans le temps? Autrement dit, est-ce qu'il y a une paupérisation absolue des pays sous-développés ou relative ou pas du tout?
Première observation, le schéma rostovien ne joue pas dans les pays en voie de développement comme Rostov le promettait, sauf dans quelques circonstances particulières. Nous pourrions citer Hong Kong, Singapour, Taïwan, mais ce sont des cas tout à fait particuliers avec injection extraordinaire de capitaux. Vous me posez la question, donc il y a échec de la méthode rostovienne, il y a échec des pays en voie de développement à se développer suivant le schéma qui a été prévu. Ça ne veut pas dire que l'échec soit définitif, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres possibilités de développement. Et pour ma part, j'avance l'exemple chinois comme exemple d'un pays qui se développe en comptant sur ses propres forces, sans aide extérieure, qui plus est, en fournissant de l'aide à des pays qui sont quelquefois plus riches qu'eux. Donc on peut sortir du sous-développement par certaines disciplines, et la discipline chinoise, qui n'est pas la dictature du prolétariat, est un exemple fort intéressant. Vous me demandez s'il y a paupérisation absolue. Il y a des cas de paupérisation absolue. Il y a certainement, dans certaines campagnes du Bangladesh, où j'étais donc au mois de janvier, des villages où le niveau de vie semble inférieur à ce qu'il était, par exemple, en 1750, pour la tout simple raison qu'il y a 5 à 10 fois plus d'habitants qu'en 1750. Mais ce n'est pas une règle absolue de dire que dans tous les pays en voie de développement, il y a paupérisation absolue. Il y a souvent paupérisation d'une fraction marginale. Mais le drame actuellement du sous-développement, c'est plutôt un drame de sous-emploi. Le drame du sous-développement actuel, c'est que nous avons perdu le contrôle de trois facteurs. Le contrôle de la démographie, voici la population qui explose. Le contrôle des modèles de production, et voici que dans le développement, il y a un chômage qui s'accroît d'une façon terrifique. Et le contrôle des modèles de consommation, parce que nous proposons à ces gens-là notre modèle de consommation, alors qu'ils ne peuvent pas y accéder, ce qui arrive que se détache de la foule, une petite minorité de privilégiés qui, pour atteindre notre modèle de développement, pour avoir nos automobiles, prélèvent sur le revenu national de ces pays-là une part exorbitante et freinent le développement de tout le reste. Je crois que notre monde est un monde d'injustice croissante. En l'an 1750, entre le pays le plus riche et le plus pauvre du monde, il y avait un écart de 1 à 4. Aujourd'hui, il y a un écart de 1 à 70. Alors je pense que cet écart croissant, que le développement des pays développés ne fait qu'augmenter, aboutira un jour à faire sauter la quelque chose.
Is the root of all evil today?
C'était Dialogue par Roger Pilaudin, pour en finir avec la société de gaspillage, avec Alfred Sauvy et René Dumont, première diffusion sur France Culture le 15 mai 1973. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.